Alors, bonsoir, toujours le thème de jeudi 8, 10, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» C'est déjà donné naissance à un film, hein, donc est-ce que c'est légitime de poser cette question? Je crois que tout le monde l'a posé au moment ou autre dans la vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cela m'arrive? Et pourquoi moi? Ou pourquoi Dieu m'a fait cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel malheur? Alors, avant de vous inquiéter, c'est plutôt un bon signe que vous posiez cette question. Parce que si tu poses la question « Qu'est-ce que je fais au bon Dieu ?», ça vous implique que tu es conscient du fait que Dieu agit dans ta vie. Parce que si Dieu n'agissait pas dans ta vie, on ne poserait pas cette question. Ce serait le grand architecte qui a créé le monde et après, il a laissé rouler sans aucune intervention. Mais la raison pour laquelle on prie, on sait parce qu'on est dans une relation avec Dieu. Et parfois, les choses qui m'arrivent, je ne comprends pas le sens. Et je pose la question, mais Seigneur, tu étais où? Un peu la même question que Marthe avait dit à Jésus quand Lazare, son frère, est mort. Si tu étais là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Autrement dit, pourquoi tu as pris 3 jours de venir? Pourquoi tu n'as pas agi comme on aurait souhaité? Donc, si je pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Ou pourquoi tu me traites ainsi? C'est quand même un acte de foi, au fond. C'est un acte de foi, mais comme toute vertu, il a besoin peut-être d'être fortifié. Je mal à te comprendre, Seigneur, mais je sais que tu es là quelque part. C'est pour ça que je vous invite ce soir de réfléchir sur une première chose. Est-ce que tu es capable d'identifier où Dieu agit dans ta vie? Au moment, tu es conscient que Dieu a agi dans ta vie. On appelle ça souvent les clins d'yeux. On fait un petit tour à lecture des événements et on est capable de trouver la trace de Dieu à l'intérieur. Il y a toujours un message qui veut nous faire passer. Souvent, cela appelle d'avoir davantage de foi, davantage de confiance ou davantage de patience. Et ça arrive au niveau de notre conscience. Ces clins de Dieu, ils sont parfois correctifs. Mais d'autres fois, ils sont plutôt renforçants. C'est un coup de stabilo que le Seigneur met pour juste renforcer quelque chose que je savais déjà, mais c'est un petit rappel que je suis là. Ça m'arrive parfois quand je vais dîner avec une famille et que j'ai encore pris mes vêpres. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et une soir, je dis, l'heure est passée, Richard, c'est ma conscience, t'es pas encore pris tes vêpres. Ah oui, mais vu l'heure, il faut que j'arrive à l'heure quand même, non? Maman et papa, ils m'ont obligé d'être toujours à l'heure, sinon c'est mal poli. Donc, même pour la messe, voilà. Donc, cette petite bataille intérieure, vêpres ou être à l'heure. Et je pense à la famille qui m'attend, etc., ça me gêne. Et donc, le Seigneur dit dans mon cœur, mais Richard, tu auras le temps. Mais je veux pas être en retard. Donc, je décide de ne pas prier mes vêpres, pas arriver à l'heure de la famille. Et je sonne chez eux. Il se trouve que le mari, il n'est pas encore rentré du travail. Et le Seigneur me dit, je t'avais dit. Tu avais le temps, c'est pour ça que je t'ai inspiré de le prier. Ça, c'est un clin d'œil. Il parle à travers ces circonstances en me disant, après le coup, qui renforce le message, fais ma confiance. Donne-moi où c'est la priorité et je m'occupe de toi. Ce sont les clins d'œil. Donc, Dieu agit dans ma vie et toujours avec bonté et patience. Ça veut dire que je suis dans une vraie relation avec lui de tous les jours. Ce dialogue qui est au niveau de ma conscience, c'est lui avec qui je parle. C'est lui qui me parle. Ces petites voix intérieures qui m'encouragent ou qui me conseillent, etc. Ou qui me fait des reproches. Donc Dieu agit dans ma vie, ça c'est sûr. Deuxième chose, Dieu n'agit pas selon mes mérites. Autrement dit, il ne se limite pas à nous donner uniquement ce qu'on mérite. Il continue à me faire du bien, même quand moi je fais le mal. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il est magnanime. Il ne donne pas autant qu'il voudrait nous donner parce que quand je fais le mal, mon cœur s'enferme. Il n'est pas ouvert pour recevoir davantage. Mais Dieu ne se limite pas à mon niveau de bonté ou méchanceté. Heureusement. Il donne toujours plus qu'on mérite. Si je suis méchant avec un de mes collègues au bureau, et s'il fait beau dehors, il y aura toujours le soleil pour moi. Je fais tomber ma pluie, je fais le soleil pour les bons et pour les méchants. Si Dieu agissait juste selon nos mérites, on sait qu'un, il fait beau dehors, mais sur ma tête, un petit nuage qui pleut, juste pour moi, parce qu'il me punit. Il agit selon mes mérites. Ou sinon, une crotte de pigeon me tombe plein sur les têtes. Hein? Piouf, piouf, piouf. T'es méchant. Et que moi. Imaginez, c'était vrai pour tout le monde. Comme ça, tu vois tous les gens qui avaient un petit nuage sur les têtes ou des crottes de pigeon, voilà, disent ah, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce serait pas très discret. Et en plus, si c'était comme ça, si Dieu agissait uniquement sur nos mérites, peut-être on fera le bien, mais on agira plutôt par peur de pigeons ou de nuages. Et pas par amour. Donc, quand un malheur m'arrive, je peux poser la question au Seigneur, pourquoi? Mais la première chose qu'il faut que je me dise, ce n'est pas une punition. Dieu n'est pas là pour nous punir. Il avait déjà dit, je ne suis pas venu pour juger le monde et pour le sauver. Ça peut être un clin d'œil. Une petite chose qui me rappelle d'une vérité, qui m'aide ou incite à devenir meilleur, ou fait plus de confiance. Mais en tous les cas, c'est toujours l'occasion de me raccrocher à lui. Pour avoir les grâces dont j'aurais besoin de faire face à ces difficultés et ces malheurs. Parce qu'il agit de ma vie, il est bon. Il n'agit pas selon mes mérites. C'est impossible que Dieu agisse juste selon le mérite parce que regarde la Vierge Marie. Elle est sans péché. Qu'est-ce qui est arrivé à la Vierge Marie? Quand elle est tout préparée à Bethléem pour la naissance de Dieu quand même, un imprévu, Joseph, il faut qu'on parte de Nazareth. Mais Joseph, je suis quasiment à terme. C'est pas possible. Dieu ne voudra pas qu'on fasse ça. En plus, j'ai tout préparé. Sur le dos d'âne, au lieu de dire la Vierge Marie, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Voilà, quand même, tu me traites ainsi. Non. Ils arrivent à Bethléem, ils ne trouvent pas une place, juste dans une grotte. Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou maintenant, Joseph se réveille un matin, ben chérie, il faut qu'on parte en Égypte. Mais pourquoi? Ben, j'ai un rêve. Oui, tu rêves, on va pas en Égypte. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu manges hier soir, Joseph? Des rêves pareils, c'est pas la première fois en plus, ça arrive souvent. Il faut voir un médecin peut-être.
Ou un prêtre.
Ou un prêtre, mais. Mais tu vois, la Vierge Marie sait que c'est pas une punition. Mais Dieu est avec nous. Il sera avec nous. Malgré les imprévus, les choses qui arrivent, les malheurs qui nous touchent. Ou même le Christ. Est-ce que Dieu et le Christ lui-même a connu la souffrance, le malheur? Ou même vivre avec des gens insupportables? Ben, j'imagine que Judas, ce n'était pas le plus sympa, peut-être. Et même les autres apôtres, avec le manque de foi, Jésus, il disait parfois, j'ai ras-le-bol, je traduis, mais vous êtes... Jusque quand dois-je vous supporter? Autrement dit, vous êtes insupportable. Mais il ne dit pas dans sa prière, et papa, pourquoi c'est blaireau, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh, de supporter les pharisiens, le complot, d'être abandonné par ses apôtres, sa passion, tu vois? Tout ça, ce n'est pas parce qu'il le mérite. Il entre dans le monde. Pour le rendre meilleur. Et ça, même à travers les souffrances. Donc, on peut poser la question, pourquoi Dieu permet que le malheur nous arrive, nous aussi? Une maladie, un accident grave, un décès, une rupture au niveau d'un couple ou d'une famille, membre d'une famille ou un ami, du chômage, une agression, même l'abus. Et en plus, on observe dans le monde que ces choses n'arrivent pas de façon égale à tout le monde. Il y a certains qui ont l'impression d'accumuler. Et moi, à côté, on a la chance. Il faut que je donne plus au dernier du culte pour être sûr que le malheur ne m'arrive pas, quoi. Si on veut trouver une réponse pourquoi ces malheurs existent encore, si Dieu est bon, et pourquoi à moi ou pourquoi pas à tout le monde pareil, c'est difficile quand même de s'aventurer sur ce type de questions parce que la réponse, il est toujours décevante et toujours insatisfaisante. Parce qu'il n'est pas un vrai pourquoi. Nous, on veut comprendre. Il faut trouver toujours le coupable dans l'histoire. Est-ce moi? Est-ce l'autre? Ben, si c'est ni toi ni moi, ben, ça doit être Dieu alors. Ben, c'est comme les apôtres ils disaient à Jésus, quand ils voient cette personne qui est malade depuis aveugle naissance. C'est lui qui a péché Jésus ou c'est ses parents? Ni l'un ni l'autre, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc ce n'est pas une punition. Mais Dieu sait qu'il y a un désordre dans ce monde, dans sa création, la création qu'il a créée bonne, saine. Mais aujourd'hui, il y a un mal qui s'installe, un désordre. C'est l'entropie qu'on observe dans la création, qui passe d'un plus grand ordre, un ordre inférieur, qui donne naissance aux tremblements de terre, voilà, des failles dans la création qui sont source potentielle de souffrance, de malheur. Mais aussi dans sa création, il y a l'homme. Il y a un désordre aussi dans l'homme, dans son corps, il y a un désordre. Ces mêmes lois de l'entropie, le plus grand ordre, un ordre inférieur, le vieillissement, on le voit. On sait que la maladie et même la mort nous arrivera. Mais aussi un désordre spirituel dans le cœur de l'homme. L'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, l'indifférence, l'avarice, la dureté, etc. Et c'est quoi la réponse de Dieu face à ces variés, ces types de diverses de malheurs? Oui, il y habite. Il s'incarne. Il s'installe au sein de nos malheurs. Il n'est pas là pour désigner le coupable. Dans l'évangile, Dieu, imagine Jésus qui voit qu'est-ce qui est dans le cœur de chaque personne. Il sait exactement ce qu'il porte. Il connaît tous les péchés. Personne n'a besoin de le renseigner ou lui dire. On ne trouve jamais dans l'évangile que le Christ dit « Ah tiens Pierre, tu sais que lui là, il a fait ça. » Et ça aussi. « Ah tu penses que c'est un bon type ?» Tu savais, il a fait ça, ça et ça. Jamais. Il n'est pas là pour désigner le coupable. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Et il ne s'éloigne pas non plus de nos souffrances, ou même de ceux qui nous font souffrir. On est de moi quand je fais souffrir les autres. Il demeure. Sachez, il faut que je vienne déjeuner chez vous aujourd'hui. Il s'invite. Pas parce que Zachée est bon, mais parce qu'il est mauvais. Et qu'il fait souffrir beaucoup de monde. C'est pour ça qu'il y a un tel scandale. C'est pas possible que tu vas. Il ne mérite pas que tu déjeunes avec lui. C'est pas une question de mérite chez le Seigneur. C'est une question d'amour, de chercher ce qui est perdu. Il nous accompagne. Il nous sanctifie par sa présence. Qu'est-ce qui se passe quand tu connais quelqu'un qui souffre? Quelqu'un qui est malade, ou qui a perdu un être cher, ils sont dans le deuil, ou qui traverse un moment difficile. Qu'est-ce que tu fais face aux souffrances des autres? Si tu te dévoues auprès d'eux et tu te rends présent, et même tu changes ce que tu as prévu pour être à leur écoute, de porter un repas parce qu'ils n'arrivent pas, parce que voilà. Là où les souffrances, tu mets l'amour. Tu montres la compassion, c'est-à-dire compatir et de souffrir avec. J'accepte de partager, je consente de partager la souffrance de mon frère. Il y a une double chose qui se passe. Je fais du bien à cette personne, je soulage ses souffrances, et moi, je deviens meilleur. Ça me bonifie. Peut-être ça nous donne une piste pour comprendre pourquoi Dieu a quand même laissé en ce monde, dans le désordre, les souffrances. S'il supprime toutes les souffrances, il supprimera aussi en même temps tous ces actes de dévouement, de service, de bonté qui rendent la vie quand même meilleure, qui manifestent les dignités qui nous portons. Ce cette semaine, j'ai enterré une dame qui est mort jeune, 55 ans. Il avait 5 ans de souffrance terrible, accumulé plusieurs cancers. Il avait 3 cancers différents, mais quand j'écoutais le témoignage de ses amis, parce qu'il avait la fin quand il savait qu'il était, entre guillemets, condamné, mais il a tout le monde prié pour un miracle. Après, moi je dis, dans la Bible, il dit, je crois qu'il a déjà eu ce miracle. C'est quoi le miracle? C'est Dieu qui agit à l'intérieur de notre vie, qui rend notre vie meilleure. Mais tu vois, vous êtes tous ces gens qui ont été vus auprès d'eux-mêmes, mais c'était magnifique. Elle est en témoigné. Toutes ces bontés que vous avez faites vous ont rendu au cœur de souffrance l'amour, la bonté, qui nous aide à rassembler plutôt notre Dieu qui fait exactement la même chose. Dans notre souffrance, il se rend présent. Il ne se trompe pas le dos. Il accompagne. Il persévère. Même quand je ne mérite pas autant. Tu vois? Ça, c'est Dieu. Et peut-être en laissant ses souffrances sur terre, il nous donne l'occasion de devenir comme lui, de l'imiter, de faire comme lui. Devenir vraiment ses enfants. Véritablement. Pas juste parce que je viens à l'église et je chante la gloire à Dieu ou je recite le credo. Là, je suis dans les actes. Fortifié, bien sûr, par ses grâces, par le sacrement que je reçois. Et là, je suis en train de le vivre. Qui me fait penser, mais au ciel, il n'y aura personne à soigner. Tout le monde se serait bien. Comment on va manifester l'amour si personne qui souffre? C'est un problème que je suis prêt à affronter. Et on trouvera la réponse. Je crois que Jésus dit, ne te casse pas de pied. Même pied en posant cette question, juste agis comme moi. Et tu peux aussi, je suis sûr que vous pouvez identifier des occasions que dans un malheur, vous avez vu un bien sortir. Je vous ai déjà raconté plein de fois l'histoire de mon papa qui était paralysé, croyant, mais un peu sa sauce, voilà, il passait d'athéisme, voilà, agnosticisme, catholicisme, mais c'est plutôt stevenisme, c'est son prénom, voilà. C'est un peu sa façon de voilà. Très indépendant, etc. Et toujours très occupé. Mais là, paralysé, 11 ans. Il doit vendre la ferme qui rêvait d'avoir pour sa retraite, etc. Et pendant ces 11 ans, moi j'étais au séminaire, donc je ne pas voyais beaucoup, beaucoup. Mais quand je le croisais pour la première fois, peut-être 2 ans après, il avait changé. Il est devenu humble, affectionné. C'est doux. Toutes ces choses qu'il était déjà, mais on ne le voyait pas très souvent. Mais là, c'était une transformation. Et bien, j'ai dit, papa, je crois que cet AVC que tu as eu, ça, c'est la meilleure chose que j'ai jamais arrivé dans ta vie. Il m'a dit, si je devrais revivre ma vie, je ne changerais rien. Parce que lui-même s'est rendu compte, en fait, il est devenu, à travers, à cause peut-être, déficit des grâces à la maladie, mais à travers cette maladie, il y a quand même de vraies grâces. Et après, je dis, mais Seigneur, si je dois choisir entre papa en pleine santé, comme il était, paralysé, comme il est, pour moi, il n'y a pas de photo. Je suis sûr qu'on pourrait chacun trouver des exemples où à travers la maladie, à travers une souffrance, il y a de vraies grâces qui sont sorties. Donc, au lieu de passer notre temps en disant, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cela? Etc. Peut-être on peut prier la prière de Saint Charles de Foucault. J'ai confiance en toi. J'accepte tout. Parce que tu es mon Père. Et de dire, quoi faire maintenant, Seigneur? Comment agir face à cela? Tu es là. Tu seras là. Tu agis en moi. Tu n'agis pas sur mes mérites. Ce n'est pas une punition que tu m'envoies. Mais aide-moi à trouver, à travers ces maladies ou ces malheurs, ce qui est de bon dedans. C'est pour cela que je laisse avec deux questions qui sont déjà préparées. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, donc, une fois sur 10. Donc, les clins d'yeux. Vous allez mettre dans vos petits groupes. Les clins d'yeux. Providence ou coïncidence? La petite chose que je parlais tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment la providence que tu le vois ou tu le vois plus comme une coïncidence? Vous avez quelques exemples à partager entre vous, très bien. Et aussi de citer un exemple de quelque chose de bien, un bien qui est sorti d'un malheur. Un bien qui est sorti d'une situation de malheur. Je suis sûr que vous trouverez des exemples. Et ce serait de partager entre vous. D'accord? Donc vous mettez dans un petit groupe de 6 personnes. Au-delà de 6, c'est difficile à partager beaucoup. Donc, allez, 6 personnes et je vous donne jusqu'à 25. Ah, 35, pardon. Donc c'est 15 ou jusqu'à 20. Voilà, ça fait 20 minutes. OK? C'est parti. Bien voilà.